Donc, nous sommes très heureux de pouvoir parler de ce sujet qui est prioritaire dans le cœur de Dieu, puisque dès les premières pages de la Genèse, Dieu il a placé sur la terre pas seulement un homme et une femme. Il a commencé avec un homme, mais il s'est rendu compte qu'il fallait vite mettre une femme à ses côtés, si vous voulez que ça marche, ok ? Donc, le couple, je peux dire que c'est une trouvaille de Dieu qui nous est relatée dans les premières pages de la Genèse. Donc, après avoir créé Adam, Dieu déclara, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je tiens à vous rassurer, c'est bon pour la femme aussi. Il n'est pas bon qu'elle soit seule. Donc il remédia à cet état de choses en créant la femme. Et lorsque Dieu crée l'homme, il le crée homme et femme. Au départ, puisque c'est par la suite qu'il tire Ève d'une des côtes d'Adam, on peut dire qu'il les sépare alors, mais il ne les sépare pas pour qu'ils vivent séparément. Au contraire, il dit que l'homme s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Donc le diable, qui est le destructeur, lui fait tout ce qu'il peut depuis lors pour empêcher cette unité d'être vécue concrètement par le plus grand nombre de couples. Et pour cela, il cherche à dresser les hommes contre les femmes, à faire en sorte qu'ils se jalousent, qu'ils se blessent, qu'ils s'oppressent éventuellement et mutuellement. Il cherche à créer la confusion aussi, on se rend compte de l'identité de chacun. On est dans une société où les gens ont un problème avec leur identité. Beaucoup d'hommes ont un problème avec leur identité, beaucoup de femmes ont un problème avec leur identité. Et lorsque nous venons dans l'église de Jésus-Christ, une chose qu'on doit retrouver, c'est son identité. Amen. Et souvent, si on ne sait pas qui on est en tant que chrétien, ça va être difficile de connaître qui on est en tant qu'homme ou en tant que femme. Le résultat est que beaucoup de femmes ont été blessées par des hommes et beaucoup d'hommes par des femmes, souvent par son propre conjoint. Et que la cellule familiale est au plus mal aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu veut libérer, guérir les hommes d'ailleurs comme les femmes, et il veut nous apprendre à nous comprendre mutuellement, à vivre en harmonie en tant qu'individu et en tant que couple. Amen. On pourrait appeler ce message aussi ce matin au secours des couples chrétiens, mais on va surtout appuyer le point où il est important de réaliser que le couple est l'enjeu d'un combat spirituel. Ce matin, on va appuyer ce point. Le couple est l'enjeu d'un combat spirituel. Parce qu'une église forte est composée de couples forts. Donc, lorsque la famille est détruite ou le couple est détruit, c'est l'église qui est détruite. Amen. Dans les messages et enseignements que je partage, ce sont en général le fruit de choses qui bouillonnent au fond de moi. Selon les sujets, ils bouillonnent parce que ça crée une excitation ou une souffrance aussi. Et ce sujet des couples, ça crée souvent une souffrance parce que nous sommes confrontés avec mon épouse à travers nos voyages et dans notre entourage à beaucoup de couples qui sont en conflit. Tant de couples vont à la dérive au milieu de nous, tant de divorces, de découragement dans ce domaine. Et je crois qu'il faut réagir et amener les gens à réagir. Je me rappelle en pleine tournée, il y a plusieurs années, nous avions des amis qui étaient dans le ministère. On s'est arrêté en Suisse pour les saluer et la femme, elle a fondu en larmes dans les bras de la mienne et elle a dit, bon, il veut se séparer, prendre les deux plus jeunes enfants. Et aujourd'hui, ce couple qui servait Dieu, qui était dans le ministère, est divorcé. Et la semaine passée, j'avais un autre couple, nous avions été invités dans leur église, on avait fait un formidable séminaire, un couple dans le ministère, un couple pastoral. Et leur église a explosé en 1000 morceaux à cause de leurs problèmes de couple. Et j'avais la femme au téléphone l'autre jour et ça y est, maintenant ils ont divorcé. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une attaque spirituelle du diable contre la famille et contre les couples. Amen. Et je dirais qu'il faut réaliser que le diable, il n'est pas à un couple près qu'il a fait exploser. Donc à la rigueur, c'est pas pour faire exploser en plus ton couple. Mais c'est parce qu'il voit beaucoup plus loin. Il voit l'église. Et quand il empêche l'église d'exister, il empêche l'autorité de Jésus-Christ de se manifester sur cette terre. Donc maintenant, il n'est plus à un couple près. Il a été assez satisfait avec toutes les souffrances depuis des générations qu'il a créées en faisant exploser les familles. On est d'accord ? Mais il voit beaucoup plus loin. Et donc, si tu veux lui résister, toi aussi, il faut que tu apprennes à voir beaucoup plus loin que tes propres intérêts. Amen ? À voir ta destinée. Parce que ta destinée, c'est pas juste d'être heureux en couple, je suis avec quelqu'un, je suis bien, c'est vraiment de te dresser contre les hordes sataniques, alléluia, et produire une différence dans ce monde et permettre au royaume de Dieu de s'établir sur cette terre. Donc, nous-mêmes, pour pouvoir résister à ces attaques, il faut qu'on voit beaucoup plus loin que notre couple, amen. Lorsque Dieu il a créé Adam et Ève, c'était pas pour bâtir une gentille petite famille, je le dis souvent, même si c'est important de bâtir une gentille petite famille, alléluia. Mais d'abord, il a placé sur terre pour dominer. Donc, avant d'être avec ma femme, pour être heureux avec elle, elle, être heureuse avec moi, même si c'est important, bien sûr que c'est important, il y a encore un domaine plus important, c'est le fait de dominer avec elle. Évidemment, je ne peux pas dominer si je ne suis pas en harmonie avec elle. Mais la motivation première, c'est de dominer. Et si notre motivation à tous les deux, c'est de dominer pour la gloire de Christ sur cette terre, au lieu juste d'être heureux ensemble, on va élever nos yeux vers la même destinée. Amen. Vers les mêmes objectifs. Donc on va avoir nos yeux levés. Et quand j'ai mes yeux levés, à la rigueur, je ne les ai pas sur elle toute la journée pour voir ses défauts. Elle ne les a pas sur moi pour voir tous mes défauts. Parce que nos yeux, ils sont levés. Amen. Vous essayez de marcher dans la rue en regardant par terre. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tous les détritus? Toutes les crottes? Amen. Et vous avez l'impression que cette ville, elle est sale. Amen. Et on est tous imparfaits. Et si on a toujours les yeux fixés sur les défauts de l'autre, eh bien, on va se battre continuellement. Amen. Mais quand on a une vision beaucoup plus glorieuse et commune, nos yeux, ils sont fixés plus haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se perfectionner dans la marche. La Bible parle de sanctification. Alléluia. Il faut devenir meilleur chaque jour. Parce que ce n'est pas possible de vivre toute sa vie avec quelqu'un d'infect qui ne s'améliore pas. Soyons clairs et nets. Amen. Mais je voudrais vous dire qu'on ne s'améliore pas quand on regarde par terre. On s'améliore à condition que nos yeux ils soient fixés sur l'objectif. Et l'objectif premier, c'est d'être sur cette terre, unis avec d'autres, tant en tant que couple qu'en tant qu'église, pour dominer. Amen. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'homme qui est dominé. Et parfois, les églises qui sont dominées. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, tu es sur cette terre pour dominer. Voyez-vous, la moitié des personnes que j'ai mariées à une époque en tant que pasteur sont aujourd'hui divorcées. La plupart des pasteurs avec qui je discute me rendent le même témoignage. Ces dernières années, j'ai vu des églises exploser, d'autres à deux doigts d'exploser parce que le couple pastoral ne s'entendait pas. Une bonne partie des ministères investis dans mon équipe, même à une époque, ont révélé les uns après les autres la faiblesse de leur relation de couple. Et ce point non réglé les a rattrapés au moment où ils s'y attendaient le moins. Il y a certaines choses dans la vie, si on ne les règle pas, tellement elles sont importantes, elles vont nous rattraper au moment où on s'y attend le moins. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du diable de nous rattraper de suite. C'est son intérêt de nous rattraper quand on est monté assez haut. Parce que quand on est monté assez haut, on tombe de plus haut. Quand on tombe et quand on tombe de plus haut, on se fait plus mal. Alléluia. Donc, il attend souvent qu'on s'occupe d'autres personnes, qu'on soit plus en vue, qu'on ait reçu plus d'autorité. Et là, il sait que la chute va faire plus mal pour nous, mais pour tous les gens aussi qui dépendent de nous. Donc, ce n'est pas dans son intérêt de suite te montrer la faiblesse de ta situation. C'est dans son intérêt de te la cacher. Amen. Et au moment où tu t'y attends pas, où tu es rempli de confiance, au moment où tu as décidé que là, tu vas rentrer enfin dans ta destinée, dans ta vision, et dans ce projet merveilleux, eh bien c'est là qu'il va tirer des filets. Et il faut être plus malin que lui. Amen. Alors au fur et à mesure des années, j'ai découvert des choses cachées, insoupçonnées, chez beaucoup de mes amis, et j'ai jugé aucune de ces personnes. Mais c'est sûr que ça entraîne beaucoup de souffrance. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur aussi en ce moment d'avoir plusieurs séminaires sur ce sujet, parce qu'il y a vraiment une aide qui est apportée. Au lieu de juger les gens, je crois qu'on peut leur apporter une aide. Et la meilleure aide, enfin, en ce qui concerne mon ministère, c'est celle de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit « Il envoya sa parole et il est guéri ». Et moi je crois que certaines choses, une fois qu'on les a comprises, on ne peut plus agir de la même façon. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Moi je ne comprends pas comment on peut devenir pire une fois qu'on a reçu certaines connaissances. Alléluia. Si on veut vraiment faire bien, ce n'est pas possible. Et au cours de mes voyages, toujours, je me suis rendu compte que les histoires de couples chrétiens et de serviteurs de Dieu qui ont divorcé, dont l'un a quitté l'autre, qui sont encore ensemble, mais vivent comme des inconnus, faisant chambre à part même, sont monnaie courante. Je voyage beaucoup et honnêtement, j'ai du mal, et je parle des milieux chrétiens, à trouver beaucoup de couples qui tiennent la route. Et le nombre d'enfants de chrétiens dépités et brisés par les conflits de leurs parents est hallucinant. Et il y a toute une génération à guérir. Ça aussi, c'est un objectif. Amen. Ça, c'est un objectif noble. Il y a toute une génération à guérir. Et croyez-moi, vous le savez, je ne fais pas partie des légalistes qui partent du principe que toute forme de divorce est contraire à la parole de Dieu. Hein. Je vous renvoie à mon livre, hein, « Comment interpréter la parole de Dieu ». Hein, donc, si vous êtes divorcé, quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est arrivé, que vous soyez victime ou coupable, je tiens à vous dire ce matin, ça n'empêchera pas Dieu de vous donner un avenir, une espérance. Alléluia, l'évangile est une bonne nouvelle. Donc, il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis ce matin. Alléluia, surtout que beaucoup de gens sont des victimes à qui on fait porter les conséquences des fautes des autres. Amen, dans les milieux chrétiens. Donc, ne vous méprenez surtout pas sur ce que je veux dire ce matin. Néanmoins, la majorité des divorces qui arrivent au sein du peuple de Dieu ne peuvent se justifier. D'ailleurs, on trouve deux extrêmes souvent. Des personnes qui acceptent pendant des années l'inacceptable de la part de conjoints qui n'ont plus de chrétiens que le nom. Hein? On trouve des gens qui supportent des situations dans nos églises. On se demande pourquoi ils les supportent et où ils trouvent dans l'écriture la justification de pouvoir les supporter. D'être trompés continuellement. Ok, de vivre avec des gens qui sont pires que des inconvertis, ça je comprends pas. Et on trouve l'autre extrême où des gens qui vont toujours menacer de se séparer, de divorcer, de quitter leur conjoint à chaque crise que passe le couple. Alors comprenez que si on commence à accepter que divorcent tous les gens qui ont un conjoint qui n'est pas assez consacré dans sa marche dans le Seigneur, on va voir les trois quarts des couples chrétiens divorcer. Donc il faut tirer un trait sur cette option. Est-ce que vous me suivez? Il y a un équilibre à trouver. Amen. Donc ces deux déséquilibres existent. Donc la Bible, elle ne connaît pas l'incompatibilité d'humeur. Elle ne connaît pas la lassitude ou les déchirements à répétition. Elle nous dit d'entretenir la flamme du premier amour. Il y a tout un enseignement dans ces séminaires qui est justement sur revenir à son premier amour. On n'aura pas le temps là de le faire cette fois. La Bible connaît la loi du pardon, de l'amour, plus forte que la loi de la haine. Et Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis de répudier vos femmes. Donc pour Dieu, c'est une question de dureté du cœur. Alléluia. Donc c'est au niveau du cœur que ça se passe. Amen. La parole de Dieu ne nous enseigne pas pour autant l'inertie. Certaines personnes se cachent derrière le commandement de ne pas divorcer pour ne pas évoluer dans le cadre de leur relation conjugale, ce qui est contraire à l'esprit de l'Écriture qui nous parle d'évolution, de sanctification, d'amélioration. Oui, Dieu se sent fortement concerné par tous ces conflits qui dégénèrent. Le monde, à sa légèreté, essaye de s'installer dans l'Église et ça n'a rien à y faire, car nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Bien que vivant dans ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Et Dieu veut plus que jamais réconcilier, affermir les couples et la famille en général. Mais l'important est important ce matin de réaliser avant tout la réalité spirituelle suivante, c'est que le couple est l'enjeu d'un combat spirituel. Il n'y a pas que le couple, mais le couple. Cet enjeu, ce combat se déroule dans le monde spirituel. Satan se déchaîne contre les foyers chrétiens. Je le répète, sachant qu'une église forte est composée de foyers forts, dont à travers la division du couple, ce sont l'église, les enfants, la société tout entière qui touche. Il y a une catégorie, vous devez savoir, d'esprits mauvais, dont le but, le boulot, la spécialisation est de provoquer des conflits entre les conjoints dans le but de détruire les couples. Il y a des périodes particulières où les satanistes se réunissent spécialement pour prier pour que les couples chrétiens et les couples de serviteurs de Dieu explosent. C'est un de leurs principaux objectifs. Donc, il y a un problème spirituel qui ne peut se gérer au départ que spirituellement. Un homme avait du mal à communiquer avec sa femme. Il semblait, quand ils parlaient tous les deux, chacun parler sur une longueur d'onde différente. Vous savez, il y en a un qui parle là et l'autre il parle en haut. Et ça part des deux côtés sans jamais se rencontrer. Vous connaissez ces schémas-là. Et ce mari, il a pris un temps pour prier, pour chercher la face de Dieu à ce sujet, pour comprendre ce qui se passait. Et alors qu'il priait, il a eu une vision dans laquelle il a vu un démon qui était entre lui et son épouse, comme ça. Ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu ce démon comme ça, entre lui et son épouse, qui était là pour les séparer. Donc le problème était d'origine démoniaque, alléluia. Donc si tu essayes de régler le problème directement avec ton épouse ou ton conjoint, tu essayes d'avoir affaire à la chair et au sang. Ça n'empêchera pas que tu devras le régler avec ton conjoint, le problème. Mais si tu commences par essayer de le régler avec la chair et le sang avant d'essayer de le régler spirituellement, tu n'iras pas bien loin. Est-ce que vous me suivez? Il faut d'abord qu'il y ait un combat spirituel, une prise de conscience du vrai ennemi. L'ennemi, c'est pas lui, c'est pas elle. Amen. L'ennemi, c'est Satan. D'ailleurs, le mot Satan signifie l'adversaire. Donc d'abord, il faut réaliser quel est notre vrai ennemi et qu'il y a un combat spirituel à livrer. La Bible dit en effet que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, dans Éphésiens 6, 12, mais aux puissances des ténèbres. Et c'est en détruisant leurs plans dans le monde spirituel que l'on parvient à libérer des solutions dans le monde physique. Donnons un exemple. L'autre, il a dit, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Détruire les plans de Satan, c'est quoi? Eh bien, c'est lui pardonner. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord. Mais si tu commences à te prendre la tête, tu es en train de faire le jeu de Satan et tu essaies de régler les choses humainement parlant. Est-ce que vous me suivez? Tandis qu'une fois que tu auras pardonné, l'autre, il sera à même d'écouter même les reproches que tu as à lui faire. Je ne dis pas qu'après, il ne faut pas régler les choses. Bien sûr, il faut parler dans la vie, régler les choses. Les choses ne peuvent pas rester si elles n'ont pas été réglées. On est bien d'accord? Mais souvent, nous essayons de les régler avant de les avoir réglées spirituellement. Donc, nous sommes énervés, par exemple. Donc, nous sommes dans une position de faiblesse vis-à-vis de Satan. Et nous n'avons plus d'autorité à cet instant qui nous vient de Dieu parce que nous sommes dans une position où Satan a des droits dans notre vie. Tandis que si nous adoptons une attitude de pardon, là, Dieu a des droits dans notre vie et nous retrouvons l'autorité. Est-ce que vous me suivez? Et souvent, nous mettons la charrue avant les bœufs et un, il met de l'huile, l'autre, il remet de l'huile, met de l'huile. Et qu'est-ce que ça donne? Ça a démarré avec une petite étincelle, ça finit, il faut appeler les pompiers. Parfois, le pasteur... Je me rappelle me lever en pleine nuit, aller chez certains couples qui m'appelaient au téléphone, et un des deux, il avait tout fracassé contre le mur. Il n'y avait plus rien intact dans la maison. Pour en arriver à ce stade, il a fallu que ça dégénère. Et d'un coup, les gens étaient là, ils se demandaient, tout bête, tous les deux, parce qu'ils s'aimaient, comment on en est arrivé là? Eh bien, parce que nous n'avons pas affaire à la chair au sang, mais aux puissants de ténèbres. Et chaque fois que tu leur ouvres la porte, eh bien, ils vont t'assaisonner. Alors certains, c'est pas toujours avec la colère, parce que tout le monde n'est pas obligatoirement, sa faiblesse n'est pas automatiquement à la colère, ça peut être un autre domaine, mais dans le domaine de ta faiblesse, il va t'assaisonner. Et pour certains, c'est la colère. Et quand ils ouvrent la porte, pour certains, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est une autre addiction. Et chaque fois que tu ouvres la porte, eh bien, tu ne te rends pas compte, mais tu vas avoir un esprit qui va te faire faire certaines choses. Et quand tu les auras faites, tu te diras comment j'ai fait ça et comment j'en suis arrivé à ces extrêmes. Vous me suivez ce matin? Remuez les bras pour dire je suis. Là-bas, vous suivez là-bas. Bernard, tu suis? Donc, l'enjeu numéro 1, spirituel, c'est le couple. Mais l'enjeu numéro 2, ce sont les enfants. Le livre de Malachie, nous l'avions déjà partagé ici en partie. Le livre de Malachie se termine par l'allusion à la venue d'Élie, qui, entre autres, il nous est dit, ramènera le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leurs pères. Mais les chapitres qui précèdent parlent des réajustements, des rétablissements que Dieu demande de faire à son peuple pour que cette onction d'Élie puisse se manifester. Dieu parle dans Malachie de plusieurs domaines majeurs de réforme et l'un de ces domaines est le couple. C'est rempli d'hommes, de femmes frustrés affectivement, sexuellement, spirituellement, frustrés en général par l'autre, hein, quand on est frustré dans un couple. Et les années passées, et les années passant plutôt, au lieu de devenir de plus en plus un, ils sont devenus de plus en plus décalés. Et les premiers à en payer les conséquences sont les enfants. Et nous avons engendré toute une génération d'enfants de chrétiens qui n'en ont plus rien à faire de l'Église à cause du modèle que leurs parents leur ont donné, ou un des deux parents. Hein, ce n'est pas toujours la faute des deux, on est d'accord. Et je crois qu'on ne peut rester là sans rien faire. Une repentance urgente même, je dirais, est nécessaire au sein de nos assemblées. Parce qu'il y a toute une génération de chrétiens qui n'ont plus rien à cirer de nos réunions d'Église. Amen. Parce qu'ils ont vu en général leurs parents faire le contraire à la maison que ce qu'ils disaient qu'ils faisaient à l'église. Et nous, nous prions pour qu'il y ait un réveil des jeunes. Mais il ne peut pas intervenir s'il n'y a pas une repentance des vieux. Est-ce que vous comprenez spirituellement, à la rigueur, ça ne sert presque à rien si on prie pour que ce réveil arrive sans que rien ne soit fait. Maintenant, si on prie, Seigneur, qu'il y ait un réveil parmi les jeunes, et je crois que Dieu veut qu'il y ait une génération qui se lève, parce que le diable a voulu qu'il y ait une génération qui disparaisse avec l'avortement. Donc, c'est qu'il a quelque chose à perdre. Il ne veut pas que cette génération se lève. Alléluia. Mais si nous prions pour qu'une génération de jeunes se lève, nous devons aussi accepter que ça passe par la repentance des familles et des parents. La famille représente notre première église. Elle est le lieu où doivent être mis en priorité et en pratique les principes bibliques. Avant que ce soit les enfants qui travaillent sur leur part dans une famille, ce doit être les parents, les couples. Car au départ, ce sont les parents qui sont supposés influencer les enfants, non pas les enfants qui sont supposés influencer les parents. Et les passages que nous avons cités parlent d'Élie qui ramène le cœur des pères vers les enfants. À la fin de Malachie, ça se trouve. Et c'est la mise en pratique des exhortations des premiers chapitres où il est dit qu'entre autres que les couples doivent être restaurés et ne plus se comporter comme ils se comportaient à l'époque, qui font que l'onction d'Élie va être répandue et être efficace pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez Malachie, il demande d'abord au peuple de faire certaines choses, et en conséquence de ces choses, ces réajustements, on l'avait vu lors du dernier séminaire ici, Dieu promet qu'il envoie Élie le prophète. On peut parler d'onction d'Élie le prophète, amen, qui entre autres ramène le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leurs pères. Amen. Et pourquoi cette onction peut agir? Parce qu'il y a eu repentance dans les chapitres précédents, alléluia, des couples. Donc là aussi, avant juste de voir nos propres intérêts, ma relation avec mon épouse et mon conjoint, il y a encore autre chose. Il y a mes enfants. Alléluia. Je dois avoir les yeux portés plus haut que dans ma petite sphère et mon petit univers. Alléluia. Et quand je parle d'enfants, c'est pas juste mes enfants, c'est mes enfants spirituels aussi. Chacun de vous, les gens à qui vous témoignez, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Ils ont envie de voir le reflet de ce que vous leur avez dit. Que Jésus est amour. Hein? Quand vous témoignez à quelqu'un, vous lui dites que Jésus est amour. Alléluia. Que Jésus, il est rempli de douceur. Que Jésus, il se prend pas la tête comme ça avec le premier venu. On est d'accord? Donc, vous voyez, ce matin, je veux nous aider à élever notre regard. Souvent, les gens n'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont là en tant que couple, dans leur petite sphère, leur petit univers, à essayer d'être heureux. Mais non, on n'y arrive pas comme ça, parce que c'est tellement égoïste. Amen. Et le bonheur doit être le résultat du fait qu'on sème vers l'extérieur au lieu de semer rien qu'à l'intérieur. Amen. C'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est quand on est toujours plus en train de penser comment bénir les autres que se bénir soi-même. Qu'on l'obtient. Parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alléluia. L'autre jour, on est allé acheter un four. Ma femme avait besoin d'un four. Et puis au moment où elle achète, elle me dit, mais tiens, il y a la sœur Antelle dans l'église qui n'a pas de four non plus. Eh bien écoute, on va lui acheter à elle. Alors on lui a acheté le four à ma femme et on allait le donner à l'autre. La semaine prochaine, on va acheter celui de ma femme. Voilà, mais c'est un état d'esprit. Mais parfois, les gens, ils nous demandent pourquoi ça marche, vous. Parce qu'on peut vivre des trucs comme ça, et c'est naturel. Et je sais pourquoi ça marche pas chez d'autres, parce qu'ils sont d'un égoïsme. Amen. Tout tourne toujours autour de leur petit univers. C'est moi d'abord et les autres ensuite. Est-ce que vous me suivez ? Donc il est important de même vivre ce qu'on vit en tant que couple pour bénir les autres. Avant de juste penser à être bien, quoi. Est-ce que vous me suivez ? Donc, il y aura une répercussion sur les jeunes de voir des couples se lever et enfin fonctionner. Et je crois qu'il y a un besoin aussi de demande de pardon de la part de plusieurs couples à leurs enfants. Et le salut de nos enfants passe par là. Amen. D'ailleurs, dans vos familles ou dans vos couples, quand vous faites une erreur, ben il faut de s'excuser auprès des enfants. Si vous êtes emporté, les enfants, ils le voient, de toute façon. Ce que vous ne dites pas, que vous essayez de cacher, ils le voient. Alors autant leur dire, là, papa, oui, il a dérapé. Là, papa, il a été trop dur avec maman. Ou là, je t'ai crié dessus. C'est normal que je te reprenne, mais j'aurais pas dû crier. Ou j'aurais pas dû ceci, cela. Et je suis désolé parce que le Seigneur, il n'aime pas ça. Ben, votre fils ou votre fille ne va pas vous mépriser. Va plus vous estimer que le cacher et qu'elle le voit quand même, de toute façon. Amen. Donc la repentance est un état d'esprit aussi. Et l'orgueil souvent, ça peut être notre orgueil de père, notre orgueil de mère, notre orgueil de parent, eh bien nous ferme la porte de la bénédiction des autres et de notre propre restauration. C'est pourquoi la Bible me dit que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. L'orgueil, qu'est-ce qui se passe quand on commence à se crier dessus? Parce que elle a dit ça, il a dit ça. Mais c'est quoi? Mais c'est notre orgueil. Je veux avoir raison. D'ailleurs, à l'instant, on ne réfléchit pas. Tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un, on n'aime pas comment il nous a parlé. Et donc, il faut qu'on pousse la chansonnette plus fort. Hein? Mais c'est quoi le problème? C'est notre orgueil. C'est qu'on n'aime pas comment on vient de nous parler. Tu m'as parlé comme ça à moi? Hein? Et puis, ça va vite, hein? Oh, des fois, nous, on est là, dans la voiture. Et on me dit, mais pourquoi on se parle comme ça? Alors on se prend la main, on dit alléluia, bénis le Seigneur, le diable n'aura pas la victoire. Mais ça pas, elle a parlé, on est humain, alléluia. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous allez pouvoir, avec mes enseignements, devenir parfait. Vous n'aurez jamais un mari parfait. Je suis désolé, Marité. Mais je suis désolé si tu n'auras jamais une femme parfaite, ok? C'est juste pas possible. Mais enfin, il peut s'améliorer et tu peux t'améliorer par la puissance de la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'amélioration, là aussi, Dieu ne nous condamne pas au mariage, hein. D'accord ? Il ne nous condamne pas de supporter toute notre vie quelqu'un qui évolue pas. On est d'accord ? Maintenant, il faut être patient. Il y a des gens qui évoluent plus rapidement que d'autres. On est d'accord ? Mais la patience, elle est développée quand tu vois quand même qu'il y a une amélioration. On est d'accord ? Donc, vous voyez, dans tous ces domaines, on est obligé de revenir à des bases bibliques élémentaires qu'on perd souvent de vue, comme l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dans l'humilité payera toujours. Dans ta relation de couple, elle payera toujours. L'humilité, c'est pas s'écraser, être d'accord avec quelqu'un qui te dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord. Non, c'est l'attitude. Amen. Pourquoi on peut être orgueilleux avec notre vérité? Et c'est pas parce qu'on a la vérité qu'on va être justifié. Amen. Parce que l'esprit qui est derrière est un esprit d'orgueil. Est-ce que vous me suivez? C'est important, c'est d'avoir la vérité avec l'humilité. Et dans l'humilité, on arrive mieux à voir parce que l'orgueilleux est aveuglé. Mais Dieu montre sa voie aux humbles. Donc, celui qui est humble, eh bien, il voit plus clairement. D'ailleurs, quand on voit plus clairement, c'est bizarre. Les choses, on les commence à les voir différemment. Tiens, là, on pensait qu'on avait 100% raison. Et d'un coup, on se rend compte qu'on n'avait que 80% raison. Et puis... on laisse l'humilité nous envahir, puis on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'avait que 50% raison. Et que ce qu'elle avait dit, c'est vrai qu'une partie avait l'air fausse, mais moi j'ai dit, ce que tu as dit, c'est faux. Mais non, c'était 50%. Et moi, ce que j'ai dit, il y avait 50% qui était faux aussi. Donc, l'humilité amène à une réconciliation parce qu'on se rend souvent compte qu'on a 50% faux tous les deux et 50% juste tous les deux. Donc on se trouve à égalité. Donc quand on est à égalité, on n'a pas envie d'avoir un conflit. Amen. Parce qu'on se sent navré tous les deux pour 50% de faux. On se sent content tous les deux pour 50% de juste. Mais ça, il n'y a que dans l'humilité. Parce que quand on est dans l'orgueil, on a raison et il a tort. Et on voudrait vraiment que Dieu montre à tout le monde qu'il a tort. Ça nous justifierait. On est d'accord, enfin on le dit pas ça, mais ça nous ferait plaisir quand même que tout le monde voit qu'on a raison et que l'autre a tort. On est d'accord? Alors c'est pas exactement comme cela dans tous les schémas. Il y a des schémas où l'autre il a 80% raison, on a 20% de tort. Et il y a des schémas aussi où l'autre il a 100% raison, on a 100% de tort. On est d'accord? Ok? Mais souvent, quand on laisse l'humilité nous envahir, notre regard change sur les choses. Alléluia! On continue? C'est pas trop dur? Alors, une question dans ce message aussi, pertinente. Est-ce qu'un chrétien peut vivre un grand amour? À votre avis? Non, mais je pose cette question, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une telle conception de la vie chrétienne qu'ils ont l'impression, finalement, qu'en devenant chrétien, ils ont tout perdu. Et que tous les trucs super peuvent se vivre dans le monde, mais surtout pas en étant chrétien. Alors, quand tu veux voir une belle histoire, tu vas voir un film, mais c'est pas pour toi. Moi, cette notion de la vie chrétienne, je ne la supporte pas. Je vois rien de glorieux là-dedans. Ok ? C'est un peu l'image du chrétien. Je le fais pas parce que c'est interdit, mais j'aimerais vraiment. Le gars, la langue qui pend. C'est pas ça la vie chrétienne, mais comme Dieu l'a prévu au départ. C'est pas là, je suis fidèle parce que la Bible dit il faut être fidèle. Il est toujours en train de contrôler son regard toute la journée. Mais c'est pas ça la vie chrétienne, les amis. Je rassure certains, peut-être, qui ont cette conception. C'est pas supposé être ça au départ la vie chrétienne. Alléluia. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. Là où on perd quelque chose en Christ, on gagne 10 fois plus. Et je veux, à travers ces moments, montrer que la qualité de ce que sont appelés à vivre les chrétiens, dans le cadre de leur couple, comme dans les autres domaines, n'est en rien inférieure au monde. Et je veux aussi en même temps démystifier certaines conceptions qu'on peut avoir de l'amour, qui peuvent empêcher les gens de faire quelque chose de formidable avec ce qu'ils ont. Vous savez, parfois on va voir justement un film au cinéma, on a l'impression, mais ce que je vis à côté, c'est rien du tout. Mais attends, le film il a fini sur l'homme et la femme, ils s'embrassent, ils partent en voyage, et ils nous ont dit, ils auront beaucoup d'enfants, mais après, ils te montrent pas le lundi quand ils rentrent, que lui il part au boulot, et qu'elle se retrouve dans la cuisine, avec les mômes qui crient de tous les côtés. Et il faut revenir sur terre aussi. Vous voyez, il y a ceux qui ne croient pas qu'on peut vivre quelque chose d'extraordinaire, ils mettent la barre trop bas, et puis il y a ceux qui ont des idées utopiques, où justement on n'est plus humain. Toujours un équilibre. Et là aussi, il faut toujours revenir à cette valeur de l'équilibre. Donc, c'est au monde d'envier la qualité de notre relation et bonheur, et non aux chrétiens de soupirer après ce que vivent les gens du monde, dans ce domaine comme dans les autres. Alors, un chrétien peut-il vivre un grand amour? Moi, je suis bien placé pour répondre oui, puisque c'est la qualité de relation que j'estime vivre avec cette charmante personne là-bas. Et pas besoin d'en rajouter. Maintenant, je me suis rendu compte que tous les couples sont loin d'avoir démarré sur ces mêmes bases. Et le fait que beaucoup de couples sont loin d'avoir démarré sur ces mêmes bases, ou même des bonnes bases, doivent-ils dès lors être condamnés à vivre quelque chose d'inférieur? Non, ça serait sans compter sur l'omniscience et la puissance de notre Dieu qui a prévu, rappelez-vous le message la dernière fois, des solutions avant même que les problèmes arrivent. C'est ce que le diable veut nous faire penser, c'est comme moi j'ai pas eu la même expérience que l'autre, comme ça n'a pas été aussi fort, alors je suis obligé maintenant de me contenter des restes. Et ça c'est un autre piège de Satan. Eh bien c'est faux. Parce que Dieu, dans son omniscience, et il nous le prouve justement par la chute et la restauration en Jésus-Christ, alléluia, il a prévu quelque chose de mieux que ce qu'on a perdu. Il a prévu toujours quelque chose de mieux ou de faire quelque chose de formidable avec ce qui ne semble pas formidable au départ. Parce que dans son omniscience, il a déjà prévu la solution. Et ça, c'est rassurant. Donc ne tombez pas dans le piège du diable, ne vous comparez pas et ne comparez pas votre expérience aux autres personnes. Parce qu'il y a des couples qui démarrent très mal et qui finissent super. Et il y en a qui démarrent très bien et qui finissent très mal. Beaucoup sont confus au sein du peuple de Dieu. De nombreux couples au sein de nos églises n'ont même plus de conviction quant au fait qu'ils se soient réellement mariés dans le plan de Dieu. D'ailleurs, quand les gens commencent à s'accrocher et passent par une crise et elle ne se résout pas rapidement, le diable commence à mettre toutes ses semences, ses pensées. Est-ce que finalement c'est vraiment marié dans le plan de Dieu? Certains ont même l'impression qu'ils se sont retrouvés ensemble parce qu'ils ont pris ce qui s'est présenté. Ils pensent qu'ils sont entrés dans le seul plan qui se mettait en place pour eux, sans que ce plan corresponde vraiment à ce qu'ils auraient voulu. Je ne suis pas si vieux, mais ça fait longtemps que je suis dans le ministère. J'en ai rencontré de toutes sortes de situations, alléluia, et beaucoup de gens qui étaient trompés par le diable, alléluia, qui à force de recevoir des pensées du diable, en oubliaient même les choses qu'ils avaient pensées à une époque. Ils croyaient qu'ils avaient toujours pensé ce qu'ils pensaient maintenant. D'autres ne divorcent pas pour la seule raison que la Bible condamne le divorce. Ils se supportent donc sans croire que leur situation puisse se transformer. Et à ces gens, je veux expliquer les choses suivantes. On peut vivre un grand amour parce que dès le départ, ça a été le cas. Mais dans bien des cas, un amour peut ne pas sembler avoir été un grand amour et le devenir avec le temps par ce que l'on en fait. Le principe biblique, c'est vraiment ne pas se résoudre à ce que le futur soit comme le présent. C'est vraiment un avenir, une espérance. Un chrétien qui se laisse dominer par le Saint-Esprit, il voit toujours une porte de sortie, un avenir, une espérance, un regard vers le mieux. Alléluia. Et même quand il a perdu son foyer, il croit que Dieu peut lui en rebâtir un autre. Tous les gens ne vous prêcheront pas ça, mais moi je le prêche. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est l'autre apprend tellement à découvrir, à apprécier son conjoint au cours des années qu'un amour qui ne semblait pas très enflammé finit en un grand amour. Là où des gens qui auront commencé à enflammer, comme il y en a des tas dans le monde, hein, j'ai eu le flash, j'ai eu le coup de foudre, ok. Et tu vois, juste quelques semaines après, c'est le coup de poing. Quelle est la valeur de tout ce qu'il y a dans le monde? C'est pas le monde qui doit nous servir de modèle. Amen. Ensuite, Dieu s'y prend avec nous de différentes manières. On représente des personnalités, des sensibilités différentes, on en est à des stades différents et Dieu, il s'y prend avec nous de manière différente. Donc on ne doit pas comparer notre expérience à l'expérience des autres. Il y a un piège à comparer notre expérience à l'expérience des autres personnes. Alléluia. Vous devez savoir que si Dieu n'aime pas le divorce, il ne nous condamne pas pour autant au mariage. Ce n'est pas une condamnation, le mariage. Il ne nous condamne pas à rester mariés. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée de ne pas divorcer, elle est juste. Mais si c'est pour subir son mariage parce qu'on ne fait rien pour l'améliorer, ce n'est pas l'idée qui se trouvait derrière le commandement de Jésus qui nous dit de ne pas répudier son conjoint. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est ne divorcez pas, mais faites ce qu'il faut avec votre conjoint pour faire de votre mariage une réussite. C'est ça l'idée qui se trouve là derrière. Sinon, autant divorcer. Honnêtement. Je ne comprends pas les chrétiens qui sont simplement d'un seul côté, qui se sentent bien parce qu'on n'a pas divorcé dans leur église. Attends, mais si on n'a pas divorcé, qu'on fait chambre à part, qu'on se supporte à peine, mais autant divorcer, c'est encore plus honnête de divorcer. Ah non, mais on veut garder le témoignage. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est la vérité. C'est garder la vérité. Amen. Mais toujours équilibre. Le fait que votre mariage n'a pas démarré dans une passion effrénée, ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. D'ailleurs, l'idée que nous sommes toujours et tous à même de juger quel conjoint est bon pour nous est discutable. Il vaut mieux pour certaines personnes que Dieu ne leur donne pas ce qu'elles voudraient, car ce qu'elles voudraient n'est pas réellement ce dont elles ont besoin. Suivez mon raisonnement. Il est important dans la vie d'en arriver au stade de maturité où l'on veut ce dont on a besoin et qu'on ait besoin de ce qu'on veut. Que l'on ne désire plus ce qui n'est pas bon pour nous et qu'on aspire à posséder ce qu'il est. Or, cela prend du temps, plus ou moins selon les gens. Ce que beaucoup de gens appellent de l'amour, c'est parfois simplement de la convoitise. Quand on est immature, on veut des choses dont on n'a pas besoin et dont on se lassera. Ils ne sont pas vraiment les choses dont on a besoin. Est-ce que vous me suivez? Un gosse de 10 ans, il veut conduire la voiture de papa. Mais si tu lui donnes les clés, tu vas lui faire du mal. Si certaines personnes avaient ce qu'elles voulaient, elles ne tarderaient pas à ne plus le vouloir. Parce que c'est bien la personne que tu rencontres aujourd'hui, mais comment elle sera dans 10 ans? Ok? Donc, il vaut mieux marier quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas l'air d'être exactement parfaitement ce qu'il fallait, mais on sent que c'est Dieu qui le veut, et puis elle va le devenir dans 10 ans, que marier quelqu'un qui semble tout être aujourd'hui et se rendre compte des... le lendemain se levant après la nuit de noces, que c'est pas ça, quoi. Ça existe aussi. Donc on a besoin de la paix de Dieu avant tout. Alléluia. Et du discernement de Dieu. Amen. Je me rappelle ce gars qui priait, « Seigneur, donne-moi une grande blonde, parce que la Bible dit que tu donnes à chacun ce dont il a besoin. » Lui, il était petit, gros, plein de boutons. C'est pas juste, c'est de la convoitise, ça. C'est pas juste. Dieu, il n'exauce pas ses prières. Le diable, il exauce ses prières. Ah, mais vous, quand vous analysez certaines prières des gens dans les églises, vous avez des surprises, il y a des trucs. Il y a des choses qu'il vaut mieux que Dieu n'exauce pas. Il y a un homme qui en voulait à Dieu. Il avait prié pour avoir une certaine femme et il n'avait pas pu l'avoir. Il s'était marié avec quelqu'un d'autre et depuis il était blessé. Il en voulait à Dieu, ok? Il n'allait plus à l'église, il ne priait plus. Il était fâché avec Dieu. Ça arrive, hein? Vous n'êtes jamais fâché avec Dieu? Bon, en plusieurs années, il a rencontré cette femme dans la rue. Ils sont allés boire un café ensemble et quand il a fini de discuter avec elle, il est rentré chez lui. Il a remercié le Seigneur de ne pas lui avoir donné. Dieu, il sait des choses qu'on ne sait pas, nous. Hein? Au lieu d'en vouloir à Dieu parce que ça n'a pas tourné comme on voulait. Est-ce qu'on veut rentrer dans les plans de Dieu ou on veut faire rentrer Dieu dans nos plans? Hein? C'est important, ça. Et quand on est jeune à l'école, on tombe amoureux de jeunes filles, etc. Ok? Et puis, quand on rencontre la femme de notre vie ou le mari de notre vie, ben, on est content de ne pas s'être marié avec les autres. Hein? Pourtant, des fois, on est là, on reste avec ses regrets. Hein? Mais ce jour-là, on se dit, mais quelle valeur ils avaient, ces regrets? Et on doit faire attention avec les sentiments, les amis. Le diable, il joue avec les sentiments. Il y a des gens qui sont enfermés dans les sentiments et dans les émotions. Il y a des murs d'émotions pour briser leur vie. Alléluia. J'ai aimé. Je ne peux plus aimer maintenant. Oh, ça va. Ouh. J'ai été blessé. Ben oui, tout le monde a été blessé. Maintenant, allez, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui? Amen. Je crois qu'il est important d'avoir des enseignements comme ça pour rassurer les gens. Parce qu'on sait ce que le diable fait dans l'esprit des gens. Et il les rend confus à partir de choses très subtiles. Ah, si tu t'étais marié avec un tel, au lieu de te marier avec lui, si tu... Il ne faut pas se laisser aller à ces choses-là. Amen. Déjà, est-ce que tu as pris le temps de découvrir tout ce qu'il y a de bon chez celui qui est à côté de toi? ou celle qui est à côté de toi. Amen. D'accord, tu vois ce qu'il y a de mauvais. D'accord, mais ce qu'il y a de mauvais, on peut le voir chez chacun là. Si je viens habiter chez vous, au bout d'une semaine, je peux faire un rapport, ok? Je ne pense pas que je vais trouver que du bon. On est d'accord? Alors, par contre, est-ce qu'il y a du bon? Est-ce que tu as déjà fait une liste pour savoir tout ce qu'il y a de bon en lui? Alléluia. Okay. Et après, voir, faire la différence. Est-ce que le mauvais l'emporte sur le bon ou le bon l'emporte sur le mauvais? Si le mauvais l'emporte sur le bon, oui, il faut se bouger là. Hein? Ok? Mais parfois, quand on fait l'équilibre, avec beaucoup de gens, on va se rendre compte que le bon, il emporte sur le mauvais. Pas pour tout le monde. Mais on va se rendre compte parfois qu'on laissait notre attention être attirée par des points secondaires. Ton mari a quelques défauts, et quand tu vois comment certains maris traitent leur femme, tu dis, oh, il n'est pas si mal le mien. Mais parfois, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Okay? Parce que quand on vit 24 heures sur 24 avec quelqu'un, on a les défauts sous les yeux. C'est pour ça qu'il faut élever le regard régulièrement. Amen. Regardez là. Oh, hop, on met ce poisson là. On commence tous à le regarder. Regardez ce poisson. Allez-y. Bon, au bout d'un moment, vous ne voyez plus que le poisson. Hein? Hein? Pourtant, regardez, il n'y a pas que le poisson dans cette salle. Mais vos yeux sont fixés sur ce poisson. Et au bout d'un moment, vous, si vous faites une obsession, c'est ça le problème de Satan, c'est qu'il veut nous faire passer. Hein? S'il veut nous faire passer de la tentation à l'obsession. Donc on fait une obsession. C'est le problème dans ce monde. Les gens font des obsessions, ok? On fait une obsession sur quelque chose qui fait que tout ce qu'il y a autour disparaît. Et on oublie tout ce qu'il y a autour. Mais il n'y a pas que le poisson dans cette pièce. Vous êtes d'accord avec moi? On le dit souvent en rigolant. Regardez les jeunes ados. Ils ont un petit bouton là. Ils regardent, quand ils se regardent dans la glace le matin, ils voient que le petit bouton. Et il esquiche. Pour qu'il disparaisse, mais plus il esquiche. Alors, tu vois ton fils le matin, il part devant la glace, il a juste un petit truc. Et puis après, tu le vois, il part à l'église, il aime se pendre. Il a essayé de faire disparaître quelque chose parce qu'il était obsédé par ce petit point. Et en essayant de le faire disparaître, il a fait grossir. Si bien qu'après, au lieu d'avoir un petit bouton, il a un sparadrap. Parce qu'après, il faut qu'il le cache. C'est ce que le diable veut faire avec nous. Il veut qu'on devienne obsédé par les choses. Alléluia. Donc, le point important à réaliser ce matin, c'est que le couple, et donc la famille en général, est l'objet d'un combat spirituel. Ok? Donc, tout à l'heure, on va prier pour que Dieu nous donne plus de discernement dans ce domaine. Car le diable veut créer un conflit. Et à la rigueur, je dirais qu'un conflit en soi, c'est pas malsain, un conflit. C'est-à-dire, je pense ça, tu penses ça, et on n'est pas d'accord, c'est très sain, parce que ça va nous permettre de trouver l'équilibre. Parce que si je suis seul à penser ça, sans quelqu'un qui va contrebalancer, je risque de me casser la figure, parce que dans mon orgueil, je pense que j'ai raison dans tout. Et en discutant avec la personne qui n'est pas d'accord avec moi, ça va me permettre de réajuster et donc d'éviter de me casser la figure. Donc, le conflit en soi est sain. C'est lorsque le conflit dégénère que ça devient malsain. Lorsque le conflit doit être agrémenté de la colère, du jugement. Tu fais toujours ça. Tu as encore fait ça. Ça, c'est bien toi. Ça tue, ça. Hein? Ça. Oh, chaque fois. Oh, et là, c'est. Il faut rattraper le coup, hein. Les paroles ont un pouvoir. Faites attention. Donc, ne fuyez pas le conflit. Si on n'est pas d'accord tous les deux, il n'y a aucun problème. C'est ça le problème. Parfois, dans les églises, on s'excommunie les uns les autres parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est sain de ne pas être d'accord. Ça crée une discussion qui nous permet de trouver un équilibre. C'est rare que tu rentres dans une discussion où tu es sûr d'avoir raison et que tu ressors et tu es sûr d'avoir absolument raison dans tout. Même si tu es toujours d'accord que ton point de vue et véritable, tu mets en général des nuances quand tu as discuté avec quelqu'un. Tu dis, bah là, peut-être j'étais un peu trop, même si j'ai raison, là, j'y allais un peu trop, là, je vais arrondir les angles. Mais d'accord ? Donc, c'est sain. Le conflit, c'est sain, ok ? Ce qui est malsain, c'est quand ça dégénère, quand il est agrémenté de colère et de jugement. Lorsque Paul traite dans les Éphésiens de la position de l'homme par rapport à la femme et vice-versa, il fait tout un parallèle entre la relation de Christ et l'Église. Regardez donc Éphésiens 5, 22 à 24. « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au... » Au qui ? Seigneur. Car le mari est le... Les deux, là. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. On verra ces choses plus en détail cet après-midi et ce soir. Et en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, il parle du couple, là, et il fait sans arrêt le rapport avec Christ et l'Église. Il parle du couple comme d'un mystère directement relié à Jésus. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, Éphésiens 5, 31, est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc le principe relationnel entre l'homme et la femme dans le couple est indissociable de la relation de Christ et l'Église. Vous pouvez répéter après moi, indissociable. Indissociable. C'est très important à réaliser. Parce que ça signifie à la fois qu'on ne peut réussir cette relation de couple que si l'on se comporte comme Christ et l'Église doivent se comporter. Donc déjà, pour réussir notre relation de couple, on ne va pas chercher dans Marie-Claire le mode d'emploi. On essaie de comprendre dans l'Écriture comment Christ se comporte à l'égard de son épouse et comment l'épouse doit se comporter à l'égard de Christ. Ok ? Si vous essayez une autre formule, ça ne marche pas. On est d'accord ? Donc quand ça ne marche pas, c'est qu'on a mis en route une autre formule. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, dans les domaines où je ne suis pas affranchi, donc je suis encore lié par un mensonge. Vous savez, les versets, c'est à double sens. On peut le présenter ainsi aussi. On ne peut être victorieux de grandes choses dans le domaine spirituel en général, si on n'est pas victorieux dans ce domaine. Et c'est ça le problème. Parfois, les gens veulent être victorieux à l'autre extrémité de la terre et n'ont pas démarré par être victorieux dans leur propre couple. Et c'est ce qui fait souvent la faiblesse de nos églises et de nos ministères. C'est qu'on a grillé les étapes. On est allé trop loin. Et on est rattrapé par ce qu'on a laissé derrière. Ça veut dire aussi qu'on se trompe si on veut servir Dieu sans le servir efficacement chez soi, auprès de son conjoint. Sans servir efficacement son conjoint. Ça, c'est toujours dans le ce qui concerne les gens qui peuvent le faire. Hein. Il y a d'autres situations, ils ont tout fait pour le faire et le conjoint n'a pas réagi comme il aurait dû. Mais ça, c'est un autre domaine. Bref, vous saisissez le rapport et l'enjeu. Une relation de couple bancale, si nous en sommes responsables, nous ferme la porte de la bénédiction et nous ouvre celle de la malédiction. Peut-être quelqu'un dira, mais si c'est pas moi qui en suis responsable. Dans ce cas, devant Dieu, tu fais ta part et tu as droit à la bénédiction. On est d'accord ? Pierre dit aux maris que s'ils n'honorent pas leur femme, dans 1 Pierre 3,7, cela créera un obstacle à l'efficacité de leur prière. Marie, montrez à votre tour, 1 Pierre 3,7, de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi je donne ces précisions? Parce qu'on peut facilement lire un verset sans bien détailler ce qu'il veut dire. Dans Loin de les honorer, beaucoup d'hommes traitent mal leur épouse. Et il y a un schéma là de malédiction. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Donc que l'on blesse ou attriste son conjoint, c'est une des choses qui fait le plus souffrir Dieu d'après Malachie 2.13. Regardez, voici encore ce que vous faites. Mais comme je l'avais mentionné lors d'un message qu'on a donné ces derniers mois, lorsque Dieu vient trouver son peuple à travers Malachie et il lui cite plusieurs des domaines comme les finances, comme le couple, comme le fait de ne pas l'honorer en priorité, le premier réflexe du peuple, c'est pas de dire ben c'est vrai Seigneur on le reconnaît, c'est de dire mais Seigneur qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'habituer dans notre vie chrétienne à appeler normal des choses qui pour Dieu sont pas normales. On s'est tellement habitué à certains schémas chrétiens que quand Dieu vient nous dire « Mais ça va pas ton couple ?» On dit « Mais oui, il tourne normalement par rapport aux normes. » Et Dieu nous dit « Mais c'est quoi ces normes ? Est-ce que ce sont mes normes à moi ?» Ah oui, mais je donne normalement par rapport aux normes. Et Dieu dit « Mais c'est par rapport à mes normes à moi que tu donnes ?» Mais le peuple au départ, regardez dans Malachie, même les autorités, ils disent « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, on te fait des offrandes. » Il dit, t'as vu ce que vous me donnez? Tu le donnerais à ton président, à ton gouverneur, il t'enverrait promener. Ah oui, mais c'est normal. Pourquoi il ne réalise pas? Parce qu'il y a des choses anormales qui sont devenues normales. Le réveil, pour Dieu, c'est anormal. Le non-réveil, pour Dieu, c'est anormal. Pour nous, c'est devenu normal. Et Dieu, il regarde, il dit, mais il y a un truc qui ne va pas dans cette église. Nous, on dit, oui, ça va, on a ses demandes, tous les gens chantent Alléluia, on a une guérison par-ci, par-là. Et Dieu dit, mais ça ne va pas. J'ai dit, je suis sympa avec ma femme, ça va. Mais Dieu dit, attends, mais c'est plus que ça que je voulais. Je suis sympa avec mon mari, ça va, on se supporte. Mais Dieu dit, mais attends, quand j'ai mis Adam et Ève dans le jardin, ce n'est pas pour qu'ils se supportent. Oui, mais c'est normal, regarde autour. Vous connaissez cette expression, mais regardez les gens autour, ils font pareil. Quand quelqu'un il veut se déculpabiliser, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais regardez les gens autour. On n'a pas fait moins qu'eux. On n'est pas pire. Mais c'est justement pour marquer une différence dans ce monde, il faut que ça se voit. Vous me suivez? Alors voici encore ce que vous faites, il dit dans Malachie. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et je me suis rendu compte que le principe des gens religieux dans les églises, et si vous avez un problème avec un esprit religieux, ne vous sentez pas condamné, mais ça peut vous permettre de résoudre ça. C'est que justement, on lève les mains, on a l'air hyper spirituel, mais dans le vécu de chaque jour, on se fait rétamer jour après jour. C'est le principe de l'esprit religieux, c'est que dans la façade, c'est là, mais dans les actes, il n'y a plus rien qui suit. C'est pourquoi vous trouverez toujours chez les gens les plus religieux, dans le mauvais sens du terme, dans les églises, quand vous grattez, vous trouverez toujours des péchés pas possibles cachés. Les gens qui sont toujours en train de prêcher contre les femmes, par exemple, pour car des gens, ils ont un problème avec les femmes. Religieux, tu sais, contre, toujours humilier l'autre, etc. Parce que dans ton insécurité, tu essayes d'abaisser l'autre. Quand quelqu'un il tape toujours contre quelque chose et trop fort, faites attention. Ouh. Parce que l'esprit religieux, il peut te donner l'impression d'être saint, mais il peut pas te rendre saint. Il peut pas, c'est contre son principe de te rendre meilleur. Parce que si cet esprit ne vient pas de Dieu, il est là pour te rendre pire. Donc, il va te permettre de créer une façade religieuse qui te permet pendant ce temps de devenir pire. C'est ça l'esprit religieux. Tu as l'air bien pour pouvoir derrière cette façade faire mal. Et donc, les plus grands crimes au cours des âges se sont faits derrière le nom de Dieu, de Bible, de croisade, d'inquisition. Tout ça, c'était normalement fait au nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Or, Dieu, il a besoin aujourd'hui de personnes qui sont. Pas qui paraissent, qui sont. Il faut être et non paraître. Alléluia. À la rigueur, paraissons moins. Ok ? Mais soyons plus. Faudra le mettre dans le petit païen, celui-là. Alors, ces versets que je viens de citer signifient que quand on vient à l'église, si on s'est pris la tête avec son conjoint, par exemple, Dieu n'écoute ni les louanges ni les prières. Et si Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas non plus. Et d'ailleurs, peut-être en venant ce matin, vous avez été fortement tenté de vous prendre la tête, il suffit d'avoir un séminaire sur les couples pour que les couples commencent à se prendre la tête. Hein. L'autre jour, on a eu un séminaire sur le couple, c'était où? À Belfort. Là. Oh, le gars, il est arrivé, il m'a dit, ça y est, on va nous disputer comme des chiens dans la voiture. Bon, c'était sympa, il a eu l'humilité de le dire, on a rigolé ensemble. Moi, j'aime dédramatiser. Je ne suis pas là pour être avec le diable contre les gens, je suis là pour être avec Dieu pour les gens. Ok? Et quand les gens ne se sentent pas jugés, on peut leur dire des vérités bibliques, parce qu'ils savent qu'on ne les dit pas pour leur mal. Mais ils sont repartis, ils ont fait l'effort de tenir tout le séminaire, sans s'entretuer. Mais ils sont repartis avec un plus, alléluia. Ça, c'est très important. Il y a des couples recomposés aussi. Il faut prier pour les couples recomposés. C'est très difficile. Il y a les enfants à gérer au milieu. T'es pas vraiment le vrai père, t'es pas vraiment la vraie mère. On te balance à la figure, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. T'es... Et t'es là, t'es chrétien, il y a des tensions à gérer. Hein. Nous, on a des amis, là, c'est un couple recomposé qui font partie des responsables, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Pourtant, ils s'aiment. Donc on n'est pas là pour juger les gens, rappelez-vous, on est là pour aider les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Amen. Donc une mauvaise relation avec notre conjoint ferme les écluses des cieux. Donc j'ai un intérêt à chaque fois qu'un feu prend, à l'éteindre le plus rapidement possible. C'est pourquoi la Bible dit, elle ne dit pas que les feux ne prendront plus jamais, c'est pas possible. Ok? Mais elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça arrivera à chacun de se prendre la tête régulièrement. Et je dirais, à la rigueur, c'est pas malsain, ça nous rappelle qu'on est sauvé par grâce. Et qu'on a besoin de sa grâce. Amen. Mais il faut vite éteindre les feux. Il faut être des pompiers professionnels. Alléluia. La suite du verset cité de Malachie est rendue dans la Bible Colombe par quoi? Par ça. Vous dites, pourquoi Dieu n'a-t-il plus égard à vos offrandes? Parce que l'Éternel a été témoin. Vous voyez toujours la relation entre Dieu et la prière. Dieu n'a pas égard à la prière. Dieu n'a pas égard aux offrandes. Dieu n'a pas égard à la louange. Et pourtant, on fait ça pour faire venir l'onction. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et à quel point c'est important pour le cœur de Dieu? Oh. Alors quand il parle de la femme de sa jeunesse, ça ne veut pas dire la première personne qu'on a aimée, la première personne avec qui on s'est marié. Donc si vous êtes remarié ou divorcé, vous ne vous sentez pas concerné, ça ne veut pas dire que vous devez retourner avec votre ex. Ok? Mais c'est la personne avec qui on vit quelque chose de fort. Donc si on se remarie, c'est pour vivre quelque chose de fort. Amen? Qui correspond à une relation qualifiée, c'est une expression dans l'écriture, de relation avec la femme ou l'homme de sa jeunesse. C'est-à-dire que c'est frais, c'est jeune, c'est nouveau. Ah, ça ne devient pas mou, assis. On n'est pas là avec les bigodis sur la tête avant de faire l'amour dans le lit. Ah. Un souffle nouveau. Ça aussi, c'est dans le monde, ça. Oh, mais c'est normal, après tout, ça fait 20 ans, vous savez qu'on est mariés. Après 20 ans, on peut quand même pas... Et ça doit être meilleur, bibliquement. Ça doit être mieux, bibliquement. Ça doit aller de mieux en mieux. Ou alors Dieu est limité, le pauvre. Ok? Il nous fait rencontrer quelqu'un, après il nous dit, débrouillez-vous, hein. Il nous met dans le sale drap, hein. Et il nous laisse nous débrouiller. Mais l'onction est là pour nous aider dans tous les domaines. L'onction, c'est pas seulement pour « Viens, Saint-Esprit, touche-moi, guéris-moi ». L'onction, C'est la présence de Dieu qui peut être plus ou moins forte sur nos vies pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. Nous voyons que ce domaine est très important pour Dieu. Dans l'onction, doit avoir quelque chose à faire dans tous les domaines. Nous le verrons ce soir. Esprit. Oh, qui a un esprit ici? Âme. Qui a une âme? Corps. Oui. Ok. Voilà. Abraham et Sarah, ils pouvaient pas avoir d'enfants, mais après, parce qu'elle était stérile, mais après, ils pouvaient plus en avoir normalement parce qu'ils étaient aussi trop vieux. Et elle a dit, maintenant, comment aurais-je encore des désirs? Mais ils l'ont quand même fait, Isaac. Alors, il a fallu qu'elle ait de nouveau des désirs. Donc, il a fallu qu'elle soit aidée par Dieu, sexuellement, pour avoir des désirs. Donc, Dieu, il est dans ses affaires aussi. Ne le mettons pas hors de ces choses-là. Il y a toujours les gens qui... On en parlera ce soir. Il y a les choses spirituelles, puis les choses charnelles. Et parmi les choses charnelles, il y a le sexe. On n'en parle pas. Mais c'est nous qui devons en parler naturellement, sainement, parce que ce n'est pas non plus aux journaux du monde de nous enseigner et enseigner à nos enfants ce qui est bon et ce qui est mauvais dans la sexualité. Amen. D'ailleurs, vous savez, le diable, il aime que les choses soient cachées. Quand elles sont cachées, il peut faire ce qu'il veut avec. Mais quand elles sont mises en lumière, on en parle clairement et on sait où on va et avec qui on y va. Et l'onction de Dieu, c'est pour ce domaine. Alors, je voudrais aussi qu'on prie tout à l'heure, et j'ai cette pensée très forte, que plusieurs peut-être puissent prier pour dire, Seigneur, nous t'ouvrons notre porte pour que ton onction nous touche dans ces domaines-là. Parce que c'est vite fait, vous savez, on vit dans... Notre culture influe sur nous aussi. C'est vite fait de vivre dans... Une société très catholique où le sexe a souvent été considéré comme quelque chose de... Vous savez, c'était le péché. Or, vous savez, Dieu leur dit de procréer avant qu'ils pêchent. Hein. Donc moi, je connais qu'une seule manière de procréer. Si vous en avez une autre, vous l'écrivez sur un papier. Dans le péché est venu après. Mais dans les milieux catholiques, a été identifié le péché... à l'acte sexuel, vous voyez, mais tout ça, ça influe. Donc, on rentre dans la vie spirituelle, dans les choses de Dieu, mais parfois on met ces choses de côté, parce qu'on les met de côté et qu'on ne permet pas au Saint-Esprit de rayonner sur ces choses-là et qu'elles restent dans l'ombre, elles ne fonctionnent pas. Mais Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Donc, il veut que ça fonctionne dans les trois domaines. Alléluia. Donc, on en parlera plus en détail cet après-midi et ce soir. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, on va pas tarder à terminer. Le Seigneur dit là à son peuple qu'ils l'ont trahi. Ou qu'ils ont trahi plutôt la femme de leur jeunesse. Et on peut trahir l'autre parce qu'on est adultère, c'est vrai. Mais aussi parce qu'on trahit les principes de base sur lesquels est bâti notre mariage. Vous savez, là aussi, on a limité au fait de trahir l'autre l'adultère. Parce que Jésus a dit, sauf pour cause d'adultère. C'est vrai, mais un mariage, il est bâti sur un ensemble de principes. Pas seulement sur le fait de ne pas tromper l'autre. Parce que si tu te caches là derrière, ah, je ne commets pas d'adultère, mais je lui mène la vie impossible tous les jours. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc vous imaginez ? C'est pour ça que dans certaines situations extrêmes, on n'a pas resté avec les gens mariés. Parce qu'ils sont devenus pires que des infidèles. Et comme c'est interdit de se marier avec un infidèle, pourquoi on devrait rester avec un infidèle ? Donc, il y a des versets, il y en a à plusieurs endroits. Il ne faut pas en prendre un simplement et l'isoler. Alléluia ! Une femme qui pense se marier avec le prince charmant, elle est trahie si elle se retrouve avec un homme coléreux et irritable. Dans le contexte de ces versets, ne me tirez pas dessus. Et Dieu reproche à beaucoup d'hommes hébreux non seulement de répudier leur femme, mais aussi d'être violents. Mais il dit dans Malachie 2,16, « Je hais la répudiation de l'Éternel, et celui qui couvre de violence son vêtement. » Il y a quelque chose à bien saisir ici. On en parlera plus en détail cet après-midi. Mais l'homme a une tendance plus naturelle à la violence que la femme. Il va falloir qu'il veille dans ce domaine-là. La femme a une tendance plus naturelle parfois à essayer de dominer l'homme. Et il faut qu'elle veille dans ce domaine-là. Ok ? Parce que si l'apôtre Paul dit par exemple aux hommes de ne pas s'aigrir contre leurs femmes, il ne le dit pas aux femmes, ça ne veut pas dire que les femmes s'aigrissent jamais contre leur mari, mais ça veut dire que c'est une tendance qui concerne plus l'homme que la femme. Il demandera à la femme d'être soumise au mari, et pas au mari d'être soumis à la femme, non pas pour que la femme soit écrasée par le mari, mais parce que la femme doit avoir une tendance, si elle prend trop de liberté, à facilement essayer de contrôler, dominer son mari, dans le mauvais sens. Chacun de nous, on a des points forts, on a des points faibles. Et l'apôtre Paul s'adresse pour chacun à ce qui est son point faible. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas du tout ce point faible, mais ça veut dire que cette tendance, elle est plus accentuée chez les hommes, et telle autre tendance est plus accentuée chez les femmes. Sinon, ça ne serait pas écrit dans l'Écriture. Parce que Dieu n'est pas sexiste. Pour lui, il n'y a aucune différence. Amen. Donc l'homme et la femme sont égaux, on est bien d'accord là-dessus? Alléluia. Mais ils ont des places différentes. L'homme peut prier toute la journée pour faire les bébés, il ne fera jamais les bébés. Parce qu'ils ont des places différentes. Son corps n'est pas étudié pour ça. Chose importante, et je termine avec ça, c'est d'apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne. Si on attend de l'autre qu'il réagisse comme nous alors qu'il fonctionne différemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme et une femme, ça fonctionne différemment. Tu as remarqué qu'ils fonctionnent différemment, hein? Dans l'idée, c'est pas de lui dire « Mais pourquoi tu es comme ça ?» De comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. Et la femme, pourquoi elle fonctionne différemment? Ça sert à rien de se tourner vers sa femme et lui dire « Mais pourquoi tu pleures pour ça? Quand je vois ça à la télé, ça me fait pas pleurer, moi !» Non, il faut apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne. Et d'ailleurs, dans une église, il en est de même. Comment aider les gens? On ne peut pas aider les gens si on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Pourquoi ils réagissent comment ils réagissent? Pourquoi ils parlent comment ils parlent? Quel est leur passé? C'est bien de faire donner des témoignages aussi, parce que quand on entend le témoignage d'une personne, on regarde la personne complètement différemment. Alléluia. Parfois on se dit, bah, si j'avais vécu ça, je ne sais pas comment je réagirais moi aujourd'hui. T'es. Enfin, on dit, oh, regarde-le celui-là, ou même, il a divorcé, pourquoi le divorce? Oh, et te raconte ce que son mari ou sa femme lui faisait subir, tu dis, donc, moi je ne peux pas tenir 5 minutes avec ça. Et là d'un coup tu regardes les gens différemment. Parce que quand on connaît les gens, on sait les juger correctement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On va se lever.